Radio Vatican, Français Afrique.
Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de notre programme. L'actualité du Vatican a été marquée samedi par la création de 21 cardinaux au cours du consistoire présidé par le pape François, place Saint-Pierre, ainsi que la prière œcuménique organisée en prélude à l'ouverture de l'Assemblée synodale des évêques. Nous en parlerons dans la semaine du pape. Les élections ne sont pas prioritaires à la sécurité, c'est ce qu'a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso après un an de sa prise du pouvoir. Détail à suivre dans l'actualité sociopolitique qui nous conduira en Tunisie entre autres. Dans la deuxième partie de cette édition, nous recevrons comme invité du jour Monseigneur Edmo Djitangar, archevêque métropolitain de N'Djamena au Tchad et président de la conférence épiscopale, dans une interview après la visite à l'imina des évêques du Tchad. C'est tout pour les titres.
Radio Vatican, Français Afrique, Jacques N'Gol.
Commençons cette édition de notre programme par le compte rendu des activités du pape de la semaine présenté par Stanislas Kambashi.
Archipe Anulum de Manu Petri et Novelis Dilectione Principis Apostolorum Dilectione Tuam et l'Ecclesia Romanae.
Le pape François a procédé samedi à la création des 21 nouveaux cardinaux au cours du consistoire, le 9e de son pontificat depuis son élection en 2013. Dans son homélie, les successeurs des Pierres a appelé les collèges cardinalis à ressembler à un orchestre représentant la symphonie et la synodalité de l'Église.
Il collegio cardinalizio è chiamato a somigliare a un'orchestra sinfonica che rappresenta la sinfonicità e la sinodalità della Chiesa.
Le collège cardinalis est appelé à ressembler à un orchestre symphonique représentant la symphonie et la synodalité de l'Église. J'ai dit aussi synodalité, non seulement parce que nous sommes à la veille de la première assemblée du synode qui porte précisément sur ces thèmes, mais aussi parce qu'il me semble que la métaphore de l'orchestre peut bien éclairer le caractère synodal de l'Église.
Mais parce que me paraît que la métaphore de l'orchestre possa illuminare bene il carattere sinodale della Chiesa.
Avec ses consistoires, les collèges cardinalistes comptent désormais 242 membres, dont 138 électeurs en cas de conclave. Parmi les nouveaux cardinaux figurent aussi Mgr Stephen Ameyou Martin Moula, archevêque de Djouba au Soudan du Sud, qui a accueilli les papes en début d'année. La journée de samedi à Saint-Pierre s'est conclue avec la veillée des prières œcuméniques avec de nombreux fidèles en préparation au synode sur la synodalité qui s'ouvre le mercredi 4 octobre. Signalons que dans la matinée de samedi, avant les consistoires, le pape François avait reçu successivement en audience trois leaders religieux, Sa Sainteté Bartholomé Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, Sa Grâce Justin Welby, archevêque de Canterbury et primat de l'Église anglicane, et Sa Sainteté Mort Ignatius Afrem II, patriarche syro-orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Au courant de la semaine qui vient de s'achever, le pape a reçu vendredi les évêques du Tchad en visite ad limina apostolorum. Pour l'Église en synode, c'est l'intitulé de l'intention des prières du pape François pour le mois d'octobre 2023. La vidéo portant cette intention a été publiée vendredi par le réseau mondial des prières du pape. Vendredi toujours, le Saint-Père a reçu plus de 1200 membres de l'association Familia da Esperanza à l'occasion des 40 ans de cette association internationale des fidèles laïcs, active notamment en Amérique latine. Dans un monde marqué par l'indifférence, le pape les a encouragés à faire comprendre qu'une nouvelle vie est possible, et spécialement pour les personnes dépendantes de la drogue. L'Europe doit retrouver la passion, l'enthousiasme et l'espérance. Dans sa catéchèse, lors de l'audience générale mercredi, le pape François est revenu sur son voyage apostolique à Marseille, dès ses 26 heures dans la cité phocéenne, pour clôturer les rencontres méditerranéennes. En présence des 140 jeunes évêques, le Saint-Père a retenu un regard humain et non idéologique posé sur la Méditerranée. Dans deux télégrammes cette semaine, le pape avait tout d'abord adressé un message de réconfort à la suite de l'incendie à Sémé Craqué au Bénin, localité frontalière du Nigeria. incendie qui avait fait au moins 35 morts. Et le pape avait aussi dit sa douleur et proximité pour les victimes de l'incendie d'une fête de mariage à Karakoch en Irak qui avait fait 114 morts et 200 blessés. Dans le cadre de l'initiative Building Bridges de l'université jésuite Loyola et de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, François s'est connecté mardi via Zoom avec de jeunes filles et garçons d'Asie du Sud et a répondu à leurs questions sur des sujets d'actualité.
En tant que catéchiste, vous êtes appelé à apporter l'amour et la miséricorde de Dieu à tous sans discrimination. Vous êtes envoyé en tant que personne choisie par Dieu et par vos communautés respectives. C'est ce qu'a affirmé Mgr Alex Thomas Kalianil, archevêque de Bulawayo au Zimbabwe, le 29 septembre à l'occasion de l'entrée en fonction de 23 nouveaux catéchistes diplômés du centre pastoral d'Emtojeni. Le prélat a exhorté les catéchistes à travailler dur dans leur service, en les mettant à garde contre la tentation de créer la discorde au sein du peuple de Dieu. Comme messager du Christ, le catéchiste est un serviteur du Christ et de l'Église et doit aimer l'Église. Un catéchiste est un signe du royaume de Dieu. Un compagnon sur le chemin du ciel a-t-il fait savoir, précisant le rôle du catéchiste qui est celui de plaider auprès des autres pour qu'ils marchent dans la voie du Seigneur. Actualité sociopolitique africaine. Les élections au Burkina Faso ne sont pas une priorité, contrairement à la sécurité dans ce pays miné par les violences djihadistes, a fait savoir le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, aux journalistes qui l'interviewaient vendredi soir à la radio et télévision burkinabé. Si les élections ne constituent pas une priorité, Ibrahim Traoré a néanmoins ajouté que notre pari tient toujours pour organiser un scrutin sans préciser la date. Il a également annoncé une modification partielle de la Constitution, un texte qui reflète, selon lui, l'avis d'une poignée de personnes éclairées au détriment d'une masse. Le président tunisien Kais Saied a décidé de reporter une visite d'une délégation de la Commission européenne prévue cette semaine en Tunisie pour examiner les points à négocier sur un accord conclu en juillet dernier sur l'immigration, selon un ministre. La Commission européenne a indiqué qu'elle avait proposé d'envoyer cette semaine une délégation pour poursuivre les discussions sur la mise en œuvre du protocole d'accord prévoyant une aide financière à la Tunisie pour lutter contre l'immigration clandestine. Les liaisons aériennes entre la Libye et l'Italie ont repris samedi après une interruption de près d'une décennie malgré un embargo européen sur les compagnies libyennes selon les autorités. Un avion de la compagnie libyenne privée MedSky a décollé samedi de l'aéroport de Mitiga à Tripoli vers l'aéroport de Fiumicino à Rome. La compagnie lancée en 2022 propose 2 vols par semaine vers Rome mercredi et samedi. Au Zimbabwe, 3 mineurs ont été tués dans l'effondrement vendredi d'un puits dans une mine d'or artisanale située près de Chigutu, à quelques 120 km à l'ouest d'Harare. C'est ce qu'a rapporté la télévision d'État ZBC samedi, faisant état d'un total de 21 mineurs présumés ensevelis sous les gravats. Au moins 5 personnes ont été tuées et 6 autres blessées vendredi lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans un restaurant près du palais présidentiel à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, ont indiqué la police et des témoins. L'attaque a visé un magasin de thé du quartier de Bar Bulsho, a annoncé le porte-parole de la police somalienne Sadiq Doudish. Ce lieu est généralement fréquenté par des membres des forces de sécurité somaliennes ainsi que par des civils. Cette attaque intervient au lendemain d'un attentat à la voiture piégée qui a tué 5 civils et en a blessé 12 autres près d'un marché du centre du pays. Des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité ont été requises vendredi contre 6 militaires jugés à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo pour la répression par l'armée d'une manifestation qui avait fait plus de 50 morts le 30 août dernier. La peine la plus lourde, la prison à vie, a été demandée contre le colonel Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine à Goma. 2 peines de 10 ans et 3 de 20 ans ayant été requises contre les 5 autres. Le pape François a reçu vendredi les évêques du Tchad qui étaient en visite ad limina apostolorum. Avec le Saint-Père, ils ont partagé les joies, les espérances et les peines de l'Église tchadienne. Le président de la conférence épiscopale et archevêque métropolitain de N'Djamena, Monseigneur Edmo Ditangar, revient sur cette rencontre et sur la vie de l'Église et la situation sociopolitique au Tchad.
C'était une rencontre très familiale, pour ne pas dire très fraternelle. Le Saint-Père nous a accueillis vraiment comme en famille et nous avons discuté, échangé, assis comme, non pas dans une salle de conférence ou de réunion, mais vraiment comme des frères qui sont en cercle autour de leur grand frère pour essayer de s'encourager et en même temps de partager leur joie, leur espérance, un peu de peine aussi. Et je crois que ça a été vraiment une expérience formidable.
Monseigneur, qu'est-ce que vous allez apporter au peuple tchadien? Vous, les pasteurs qui êtes venus à Rome, qu'allez-vous apporter au peuple, aux fidèles?
D'abord, ce sera les encouragements du Saint-Père pour tout ce qui se réalise et surtout pour la croissance du peuple de Dieu qui est au Tchad. Et le Saint-Père est en admiration devant le dynamisme de cette jeune Église et en même temps aussi du courage avec lequel nous affrontons les situations qui ne sont pas toujours faciles. Et il nous a dit qu'il nous assurait sa prière, de sa sympathie et surtout qu'il nous soutenait, nous soutiendrait de manière plus concrète à travers quelques interventions et il a signifié surtout en faveur de la jeunesse.
La jeunesse, et Monseigneur, la vie de l'Église du Tchad, vous êtes en train de préparer un centenaire, un jubilé. De quoi s'agit-il exactement?
Ben, nous avons dit à peu près à tout le monde que ce sera la dernière série de centenaires puisque notre pays est l'un des tout derniers à recevoir l'annonce de l'Évangile pour différentes raisons, alors que certains pays fêtent les 150 ans d'évangélisation, ce ne sera qu'en 2029 que nous célébrerons le nôtre. Alors, pour nous, nous sommes les petits poussés de l'Église d'Afrique, mais en même temps aussi, nous bénéficions de toute l'expérience des autres églises en matière d'évangélisation. Et nous sommes aussi pleins de, pour ne pas dire d'ambition, mais au moins d'espérance pour cette église qui est en train de s'enraciner sur le terroir tchadien.
Monseigneur, concernant la situation sociopolitique de votre pays, il y a un référendum qui se prépare. Est-ce que vous estimez que ce référendum pourra apporter un espoir de changement dans la vie sociopolitique de votre pays?
Ben, le référendum était une grande espérance qui était portée par tous les peuples au sortir du dialogue national inclusif et souverain. Mais malheureusement, il est un peu biaisé en ce sens que ce référendum qui devait porter sur la forme de l'État, c'est-à-dire soit un État fédéral ou un État unitaire fortement décentralisé, mais on a l'impression que le pôle est surtout celui de l'État fortement unitaire et fortement décentralisé et au détriment de l'autre pôle fédéral qui pratiquement, puisque la proposition de constitution sera simplement celle d'un État unitaire fortement décentralisé. Alors cela frustre ceux qui sont les tenants de la fédération ou bien d'autres qui voudraient quand même que les choses se fassent de manière objective en mettant en face un choix entre deux ou trois possibilités. Alors que là, on a l'impression qu'on n'a qu'une seule possibilité, un seul choix à faire.
Si vous avez à proposer, à conseiller au gouvernement, quelle méthode il peut adopter aujourd'hui pour que les choses se passent dans le sens, ça n'est pas frustré, évidemment, les partis, mais aussi la population elle-même, afin d'espérer un développement plus grand de la population et du pays lui-même.
Je crois que le premier effort du gouvernement, c'est d'écouter le peuple, d'écouter la base, d'écouter les différentes organisations qui, en général, ne mettent pas en question l'unité du pays, mais c'est la forme de gouvernance, la forme, les opportunités qui sont offertes à toutes les composantes de la nation de pouvoir accéder au développement, au bien-être, aux ressources du pays. La frustration est grande parce que on a l'impression que une petite minorité a tous les leviers du pouvoir et qui voudrait que rien ne change, que la situation perdure.
Monseigneur Edmond Djitangar, archevêque métropolitain de N'Djamena, président de la Conférence épiscopale du Tchad et président de l'Association épiscopale de la région d'Afrique centrale, il s'entretenait avec Stanislas Kambashi. Le père jésuite Eric Goué Akwe nous introduit à la méditation avec les lectures du 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A.
Chers frères et sœurs, les tests de ce dimanche nous montrent à quel point Dieu est patient et bon avec nous. Il ne nous enferme pas dans nos limites et défauts, dans nos actes passés pécamineux et répréhensibles. Au contraire, Dieu nous offre toujours la possibilité de nous repentir et de changer de cap. La porte d'une nouvelle vie est toujours ouverte. Dieu attend patiemment que nous fassions l'effort de nous convertir, de changer notre manière de vivre, de revoir nos décisions initiales et nos choix, et de cheminer désormais avec lui. Ézéchiel nous le dit clairement dans la première lecture. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Jésus l'explique également dans l'Évangile, dans une discussion au temple avec les grands prêtres et les anciens du peuple. Jésus éclaire ses auditeurs. Il nous éclaire aujourd'hui avec la parabole du papa qui demande à ses deux fils d'aller travailler dans sa vigne. Le premier fils, qui refusa d'y aller, se repent plus tard, change de décision et va dans la vigne pour travailler pour son papa. Ensuite, Jésus donne l'exemple des publicains et prostituées qui ont cru aux paroles de Jean-Baptiste et ont emprunté un chemin de repentance et de changement de vie. En somme, il n'y a rien qui puisse définitivement nous empêcher de recevoir l'amour de Dieu ou qui puisse nous séparer de lui. Comme dit bien le psalmiste, son amour est de toujours. C'est un amour indéfectible. Dieu nous attend les bras ouverts pour nous accueillir et emprunter ensemble la route de la vie. Ce qui compte pour notre Père, c'est que nous nous rendions compte de nos erreurs passées, que nous prenions conscience des décisions et actes par lesquels nous avons privilégié uniquement nos propres intérêts ou nui à nos frères et sœurs ou ignoré leurs souffrances. En nous mettant au centre de notre vie, au lieu d'y mettre le Seigneur pour nous guider et nous éclairer, en privilégiant uniquement nos intérêts au détriment de ceux des autres, nous nous sommes progressivement éloignés de Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui compte pour Dieu, c'est que nous décidions de cheminer désormais avec lui et d'embrasser une nouvelle vie. Aujourd'hui, en écoutant les paroles du Christ, essayons de faire un voyage intérieur. Dans un moment de prière, allons en nous-mêmes et laissons Dieu nous éclairer sur notre vie actuelle et nos relations avec nos frères et sœurs ainsi qu'avec lui. Qu'est-ce qui m'éloigne de lui? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qui devrait changer dans ma vie pour me rapprocher un peu plus de lui? Peut-être que j'ai besoin de manifester à mes frères et sœurs, aux amis, aux parents, aux enfants, à mon épouse ou époux, aux collègues. Peut-être que j'ai besoin de leur manifester un peu plus d'humilité et d'écoute, un peu plus de tendresse et de compassion, un peu plus de charité, un peu plus de justice. Demandons à Dieu la grâce de nous éclairer et de nous donner la force de nous conformer à sa volonté.
Fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette édition de notre programme. Jacques Ngol, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours branchés sur les programmes de Radio Vatican. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.